Il n'est pas non plus problème d'admettre que le surcroît de sang dans l'organisme peut évidemment créer un tempérament plus dynamique, mais tout consiste à savoir dans quelle mesure le dynamisme créateur de l'homme serait le résultat immédiat du sang et dans quelle mesure serait le résultat de la volonté. Et quelle est la place, donc, laissée au libre arbitre dans ce système? Bon, les problèmes commencent justement à se poser à partir du moment où dans le monde juif et dans le monde musulman et dans le monde chrétien, il y a une sorte de confiscation de cette médecine hippocratique. Et pas simplement de la médecine hippocratique, mais du système philosophique, dans la mesure où Aristote lui-même admet l'existence des caractères chauds et caractères froids, qui va reprendre à son compte dans une typologie morale, mais la question consiste à savoir dans quelle mesure il n'y a pas, au-delà de ces quatre éléments de la nature, un conditionnement astral. Dans la mesure où certains philosophes admettent que les quatre éléments, eux, sont conditionnés par les astres, ou ils sont les produits directs de l'intervention des astres. Il y en a qui admettent que Mars agit sur le sentiment, que Mercure agit sur l'intuition, que Jupiter agit sur la pensée, que la Lune agit sur la sensation, qu'Apollon agit sur l'intuition, et ainsi de suite, et que la Terre, elle, agit sur la pensée. Pour les astrologues, je dis bien les astrologues monothéistes, puisque c'est de ça qu'il s'agit, les astres vont conditionner les quatre éléments, ou vont déterminer les quatre éléments, les quatre éléments vont déterminer les quatre systèmes d'humeur, les quatre systèmes d'humeur vont déterminer quatre types de personnalités, de façon telle que le degré de liberté est réduit au minimum. Bien entendu, il aura des tentative dans les trois religions de montrer que par la foi ou par l'adhésion religieuse, on échappe à ces conditionnements. Dans le monde juif, c'est le commentaire de Narmanide, de Rabbi Moshe Ben Nachman, sur la prophétie de Bilam, en disant évidemment les astres guident la destinée des nations, mais il n'y a pas d'astre qui guide la destinée d'Israël parce que Israël donc se trouve placé dans une dimension différente, dans un degré de liberté supérieur par son adhésion à la loi mosaïque. Donc il n'y a pas là-bas négation du pouvoir astral, mais tout simplement exception créée pour Israël. Dans le monde chrétien, bien entendu, les quatre éléments seront les quatre éléments de la croix, n'est-ce pas? Et les chrétiens, lui, il trouve donc son salut en se plaçant, n'est-ce pas, sous le signe de la croix, donc en excluant un des quatre, en excluant la dominance dans des quatre éléments, tout simplement par son adhésion à la totalité chrétienne. Bon, vous voyez déjà que dans chaque religion, il y a une tentative de montrer, d'une part, qu'il y a un rôle astral important et démontrer d'autre part qu'il y a des possibilités d'exception qui vont expliquer, n'est-ce pas, pourquoi juifs ou chrétiens ou musulmans échappent à cette loi. Ce n'est pas du tout l'hypothèse maïmonidéenne. Pour Maïmonide, évidemment, l'astrologie, elle est fausse. Mais la question consiste à savoir dans quelle mesure c'était aussi l'hypothèse des anciens. Il est clair à la lecture des textes d'Hippocrate, comme par la suite à la lecture des écrits d'Aristote, qu'il n'y a pas un conditionnement total et que l'homme peut maîtriser ses passions, peut éduquer ses mœurs. Et qu'il ne s'agit de rien d'autre que du cadre précis dans lequel il aura des obstacles à l'accomplissement de la vertu, mais pas d'impossibilités à l'accomplissement de la vertu. Qu'il y a de facilitations au vice, mais pas d'entraînement définitif et total au vice. Aristote affirme dans son Éthique à Nicomaque une phrase qui par la suite va être reprise en quelque sorte par l'école maïmonidéenne. La vertu est une disposition acquise de la volonté, consistant dans un juste milieu relatif à nous, lequel est déterminé par la droite règle, orthos logos, est tel que le déterminerait l'homme prudent. Je reviens sur cette idée-là, la vertu, disposition acquise de la volonté. Cela donc est dit par rapport également ça, à cette doctrine-là, qui consisterait à affirmer que les tempéraments peuvent empêcher l'homme d'être vertueux. Pour Aristote, il n'en est pas question. La vertu est possible dans les quatre tempéraments et malgré l'action des quatre humeurs qui, eux, peuvent agir en prédisposant l'homme à la colère ou à la mélancolie ou à l'action violente, mais certainement pas en conditionnant, en déterminant strictement le comportement humain. Est-ce que cette doctrine serait-elle celle de la loi juive? Et dans quelle mesure est-elle celle de la philosophie grecque? Finalement, Hippocrate n'est pas un philosophe. Voilà donc que nous nous trouvons devant la phrase suivante de Maïmonide, où cela est posé aussi dans son style dogmatique. Quant à toi, lecteur, sache que les points sur lesquels s'accordent et notre doctrine religieuse, celle de la Torah, et la philosophie grecque, qui corrobore des preuves péremptoires, c'est que toutes les actions de l'homme relèvent de lui-même, qu'aucune nécessité ne pèse sur lui à cet égard, et qu'aucune force étrangère ne l'oblige à tendre à une vertu ou à un vice, à moins d'une prédisposition de tempérament qui, comme nous l'avons expliqué, lui rende la chose aisée ou mal aisée, mais quant à y être contraint ou empêché, en aucune manière. Vous voyez déjà la phrase, elle est posée d'une façon très tranchée. C'est donc le point d'accord entre philosophie grecque et doctrine religieuse juive. Donc immédiatement, on se pose la question, de quelle philosophie grecque parle Aristote et parle Maïmonide? Maïmonide ne peut pas ignorer, ne peut pas du tout ignorer que la philosophie grecque, ce n'est pas un bloc homogène. C'est un ensemble d'écoles prenant des théories très opposées les unes aux autres. S'il y a des Grecs qui soutiennent la providence divine appliquée au monde, à l'univers, il y a d'autres que nous, cette providence. Il y en a d'autres qui soutiennent un fatalisme strict. S'il y a des Grecs qui soutiennent, en quelque sorte, que la nature humaine peut être établie à partir de tel ou tel principe, il y a d'autres qui diront l'opposé. S'il y a des Grecs qui parlent de la vérité comme une possibilité laissée à l'homme, d'autres parleront de la vérité comme une illusion. Or, est-ce que Maïmonide l'ignore? Certainement pas. Dans les guides égarés, dans les chapitres 17 du troisième tome, nous voyons très bien que Maïmonide est parfaitement conscient des divisions profondes dans la philosophie grecque. Il n'ignore pas du tout que cette philosophie est traversée par des oppositions. Et par exemple, en parlant dans le chapitre 17 sur les doctrines de la Providence, il parle d'une part des épicuriens grecs, des anciens atomistes, qui vont nier la Providence divine, et il parle d'Aristote, de l'école péripatéticienne, qui reconnaît une providence qui s'applique à l'univers dans son ensemble. Donc, il est clair que Maïmonide ne peut pas ignorer que la philosophie grecque, ce n'est pas un bloc monolithique. Le problème, c'est évidemment que les deux grandes écoles de la philosophie grecque qui restent vivantes à l'époque médiévale, c'est-à-dire l'école d'Aristote, Aristote devenu philosophe monothéiste, presque philosophe chrétien, et Platon, eh bien, semble professer une doctrine qui admet le libre arbitre dans l'histoire humaine. Et bien entendu, on peut se demander dans quelle mesure ces deux écoles l'admettent. Mais on peut citer quelques sources à partir d'une idée qui se retrouve dans Platon, dans sa République, dans Aristote, Éthique à Nicomaque, mais également cité par Maïmonide dans les traités de la repentance, il Hot Teshuvah. Et c'est la doctrine du pécheur qui cause sa propre ruine. Doctrine qui est d'une très très grande importance dans le cinquième chapitre du traité de la repentance, dit justement Maïmonide, effectivement, le Créateur ne prédétermine pas l'homme à être juste ou méchant, ça dit Kouracha, ceci admet, il en découle que c'est le pécheur lui-même qui cause sa propre ruine. C'est voilà pourquoi il essaie de pleurer et de déplorer ses péchés, ainsi que les désastres qu'il a fait subir à son âme en la rendant méchante. Donc, il est clair pour l'esprit maïmonidéen que la pensée grecque traditionnelle, celle que lui il va prendre en considération, celle des deux grandes écoles de pensée qui ont une influence sur le monde médiéval, admettent ces principes. Les hommes peuvent obtenir leur bonheur par son propre action, par sa propre action, ils peuvent aussi provoquer leur perte. Et ce qui est vrai des hommes est aussi vrai et des familles, et des communautés, et des cités, et des nations. Cette conception est importante. L'histoire n'est pas donc une pièce de théâtre qu'on va jouer avec un scénario, avec un déroulement, avec une fin prévue d'avance. À chaque instant, tout peut changer. Il y a donc ici une tentative de montrer que la sagesse et la vérité sont les lots communs de tous les peuples, de toutes les civilisations. Il n'y a pas opposition totale entre judaïsme et hellénisme dans cette vision du monde. Il y a tout simplement opposition entre le paganisme grec et le monothéisme hébraïque, opposition que dans l'esprit maïmonidien doit être réduite à ses proportions. Mais la sagesse grecque et la sagesse judaïque, la science hellénique et la science hébraïque sont destinées à une réconciliation dans la voie de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, tout au long de cet ouvrage, soit dans les Guides égarés, soit même dans les Mishneh Torah, Maïmonide va reprendre cette idée-là du libre arbitre, qu'il va considérer pas tout simplement comme une idée exclusivement juive, mais aussi comme une idée qui serait celle de la philosophie grecque classique. Il est possible, finalement, que Maïmonide s'inspire beaucoup plus des médecins grecs que de certaines philosophies grecques. Dans la mesure où la médecine grecque, en particulier en parlant des maladies de l'âme, en parlant de ce qu'on appellerait aujourd'hui psychiatrie ou psychologie, même si ce n'était pas appelé de cette façon à l'époque, ils étaient infiniment plus prudents que les philosophes dans la détermination de la nature humaine. Et dans leur doctrine de tempérament, font souvent influence à des constitutions de tempérament qui vont influencer le comportement, mais ne parleront pratiquement jamais d'une détermination du comportement humain. C'est la raison pour laquelle il faudrait peut-être nuancer cette idée de Maïmonide, dire que sur cette idée-là, peut-être ne pas dire que sache que les points sur lesquels s'accorde une autre doctrine religieuse et la philosophie grecque, c'est que toutes les actions de l'homme relèvent de lui-même, mais dire peut-être sache que c'est les points où notre doctrine religieuse s'accorde avec certaines philosophies grecques et avec certaines médecines grecques. Mais il est clair que Maïmonide ne parle ici que de ce qui reste vivant à son époque. Je ne voudrais pas tout de même finir cette communication qui a été déjà trop longue sans tout de même indiquer que ces propos de Maïmonide sont loin de faire l'unanimité du monde juif. En effet, la définition de Maïmonide est profondément engageante puisqu'il s'agit de parler au nom de la philosophie grecque. Or, plusieurs écoles philosophiques grecques ne sont pas aussi partisane dans le libre arbitre que Maïmonide semble le dire. Il y a peut-être ici un souci apologétique, ou il y a tout simplement un souci de conciliation entre deux hypothèses. Je crois que la controverse est ouverte dans la mesure où de la pensée rabbinique et talmudique classique. Alors que dans cet ouvrage, Daniel Jeremy Silver, qui est le fils du célèbre rabbin libéral Abba Hillel Silver, Maïmonidean Criticism, où il cherche à montrer qu'il y a tout de même un écart considérable entre la pensée maïmonidéenne et la pensée du judaïsme de son époque. Je crois que la question reste encore largement ouverte. Je ne serai pas du tout dans ma place en essayant de tirer une conclusion sur cette question. Je vous remercie.
Bien, écoutez, je voudrais remercier M. Rossi pour cette communication extrêmement riche. Il y avait tellement de points touchés. Un débat arriverait à étudier les questions et les réponses. Je vous propose de travailler encore une demi-heure, si vous voulez, jusqu'à à peu près 10h15. Par conséquent, je n'aurai pas du tout le temps, ne serait-ce que d'énumérer les innombrables observations que l'exposé de Rossi m'a suggérées. Je voudrais très rapidement, avant de vous donner la parole, souligner quelques points de méthode. D'abord, un point de méthode sur l'ensemble du sujet. Il me semble que deux parties sont apparues. Une première partie qui implique certainement un premier type de controverse, c'est la position du problème de la relation entre la culture juive et la culture grecque comme problème général. Sur ce point, M. Rossi nous a donné un raccourci historique extrêmement clair. Mais vous sentez, en tout cas, ceux d'entre vous qui assistent aux études sur le Rautner déjà depuis 2 jours, que nous avons là deux points de vue pratiquement radicalement opposés. Et par conséquent, je ne crois pas que nous aurons le temps de mettre ceci, ne serait-ce que sous forme de données. Mais j'espère que sur un point important de ces problèmes, nous nous retrouverons à la table ronde de dimanche après-midi sur un aspect de la question de la liberté du déterminisme, l'aspect de la responsabilité morale, plus exactement du fondement de la notion de l'obligation morale dans ces deux perspectives. La perspective dérivée de la méthode d'ensemble de la philosophie grecque d'une part et d'autre part de la tradition hébraïque. Et il y a, dans cette première partie, il y a aussi un autre problème sur lequel M. Rossi est revenu en conclusion. Et je partage absolument sa formule que la question reste ouverte, elle est très controversée et controversable, de la position personnelle de Maïmonide par rapport à la première question. C'est-à-dire quelle est véritablement la place de Maïmonide en tant que, à la fois rabbin et philosophe, si vous voulez, je crois que ces deux termes sont un peu trop vagues et schématiques. Mais vous comprenez ce que je veux dire, par rapport au problème de la relation entre la culture juive et la culture grecque. En ce qui concerne la deuxième partie sur le sujet lui-même, je crois que M. Rossi a très bien mis en évidence l'originalité de la formulation de Maïmonide, en particulier dans le 8e chapitre des Chemins d'Apprentis, qu'il n'y a pas de détermination du comportement de l'homme, mais il y a conditionnement à des degrés divers, par ce qu'il appelle, nous n'avons que les traductions hébraïques, il a écrit ce livre en arabe, comme vous le savez, et la tradition dit qu'il l'a écrit à l'âge de 22 ans, et la précocité du... C'est peut-être, à mon sens, le premier grand livre de psychologie qui ait jamais été écrit dans l'histoire de la pensée, et la précocité de son génie. Et le terme qu'il emploie, c'est le terme de « trounot », qu'on pourrait traduire par tendance, inclination, et non pas, donc conditionnement à des degrés divers, et non pas détermination. Je crois que l'essentiel nous a été très clairement montré, et je vous inviterai d'ailleurs, si vous avez des questions à poser, peut-être de commencer par la deuxième partie, de telle sorte d'enrichir l'étude, et ensuite, bien entendu, par la première, s'il nous reste du temps, vous me permettrez peut-être 2 observations. D'abord, pour la deuxième partie, j'ai toujours le sentiment, et de plus en plus que j'étudie Maïmonide, que Maïmonide est un grand aristocrate de la pensée, un élitiste, si j'ose dire. Lorsqu'il parle de l'homme, on se demande souvent s'il s'agit de l'homme que nous sommes, l'homme moyen, l'homme commun, l'homme de tout homme. Est-ce qu'il ne parle pas d'un homme, non pas idéal, dans le sens qu'il n'existerait pas dans la réalité, mais d'une très, très petite élite aristocrate de l'authenticité humaine, de l'homme tel que nous devrions être, pour que son discours sur l'homme colle à la réalité de tous. J'ai de plus en plus cette impression, j'aimerais bien d'ailleurs entendre l'avis de Rossi à ce sujet, et le vôtre d'ailleurs, en ce sens que il est bien évident qu'il y a une tension, une dialectique entre la capacité de liberté que certains philosophes et la tradition hébraïque reconnaissent à l'homme et d'autre part les niveaux de conditionnement, mais que la plupart des hommes, le plus souvent, abdiquent cette part de liberté, abdiquent à ce conditionnement et font que ce conditionnement devient détermination, et que c'est pratiquement le lot de la quasi-totalité de nos comportements, sauf des cas exceptionnels de courage et d'héroïsme moral où l'homme maïmonidien ressurgit en nous, d'une certaine manière. En ce qui concerne la première partie, je voudrais citer un enseignement de Rashi sur la position de la tradition talmudique par rapport au fait de la philosophie grecque en général. De la manière suivante, il y a quelquefois, 4 ou 5 je pense, dans tout l'ensemble du Talmud, la citation de controverse qu'il y a eu entre sages de la tradition rabbinique, les Chachmé Israël et les Chachmé Yavan et les sages de la Grèce. Quelquefois donc ils sont nommés philosophes. En particulier dans deux traités du Talmud, le traité de Shabbat et le traité de Avodah Zarah. Or, dans le traité de Shabbat, Rashi commente le mot de philosophe par le mot de min, qui signifie hérétique. Mais dans le traité de Avodah Zarah, là-bas le mot de philosophe est au pluriel, sha'alu philosophim. Les philosophes ont interrogé les sages, Ahmed Arom, les sages de la Judée. Là, il le commence par Hachme Umot Haolam, les sages des nations. Il y a donc apparemment une contradiction dans le jugement de valeur porté par la tradition talmudique, que connaissait Maïmonide bien entendu, sur l'identité du philosophe. D'un côté, on le définit comme min, hérétique, de l'autre côté, comme sage, Hachme de Umot Haolam. Je crois que M. Rossi a mis cela en évidence par un autre biais, c'est par rapport précisément aux positions de l'astrologie. Le philosophe, en général, se présente comme celui qui nie qu'il y ait révélation. Dans la mesure où il nie que les idolâtries, les mythologies anciennes soient vérité, alors il est réputé être sage des nations. Mais dans la mesure où cette négation de la révélation le mène à nier la révélation proprement biblique, il est nommé hérétique. Je crois que c'est un problème extrêmement important pour comprendre la position de Maïmonide lui-même dans notre question. En particulier, c'est un point d'érudition un peu fine, si vous voulez, mais je crois que intéressant à citer, le chapitre du traité de Shabbat, où le mot de philosophe est défini par Rashi comme hérétique, c'est le chapitre de Kol Kitvei HaKodesh qui traite du canon biblique. Et dans ce contexte, il semble bien qu'il s'agisse d'un philosophe juif. Alors on l'appelle hérétique. Par la suite, le contexte montre que ce philosophe juif serait devenu chrétien. Et tandis que dans Avodah Zarah, le traité tout entier traite de l'idolâtrie. Le philosophe, par rapport à l'idolâtrie, est appelé sage, parce qu'il nie l'idolâtrie, mais par rapport à la révélation, il est appelé hérétique. Il y a là une ambivalence, pas du tout ambiguë, c'est très clair. Une ambivalence de la position de la tradition talmudique par rapport à la philosophie qui ressemble un peu à ce que nous avons déjà appris avec le Rav Buchner. Je m'excuse de la parenthèse confidentielle pour ceux du séminaire du matin. Il y a eu deux jugements portés par le Talmud sur la culture grecque. L'un, un jugement positif, dans la mesure où les Grecs ont donné l'outil d'exploration de la vérité du monde physique. Maïmonide dit sublunaire, Aristote dit Maïmonide a raison jusqu'à la lune, plus haut il a tort, mais sublunaire ça veut dire le monde physique, et d'autre part un jugement négatif concernant la relation aux réalités d'ordre spirituel. Sur ce point de l'analyse de la nature de l'homme, il y a effectivement convergence entre l'enseignement de Maïmonide sur le Derech HaMitzari que la vertu est dans la voie moyenne, et d'autre part, la voie moyenne telle que nous la connaissons dans l'enseignement moral d'Aristote. Mais est-ce qu'il y a la convergence formelle? Est-ce qu'il y a la même intuition du problème moral, du fondement de la liberté, du fondement de la responsabilité? La question reste ouverte. C'était les deux petites observations que je vous ai livrées. Si nous avons le temps, tout à l'heure, j'interviendrai peut-être sur un certain point, un certain nombre de petits points de controverse sur l'apparent rationalisme de Maïmonide, que j'aimerais bien contester fondamentalement, mais le livre n'est pas encore écrit. Vous avez la parole. Oui. Vous parlez à monsieur Rosti.
Monsieur Rosti, j'aimerais savoir ce que l'absence de déterminisme de l'homme peut apporter de réponse aux problèmes posés, et je pense évident, de la folie absolue chez certains.
De la folie absolue,
de la folie absolue chez certains. Quelle est la responsabilité d'un homme devant la folie totale, l'aliénation mentale, telle que la civilisation occidentale la contrôle?
Vous préférez que toutes les questions soient dites avant que M. Rosti réponde en bloc ou une par une? C'est à votre décision libre. Une par une. Alors ne soyez pas trop long. Bon. Moi je peux rester longtemps, mais je pense que le garder.
Je n'aurai pas l'outrécuidance d'essayer de résoudre ce problème extrêmement compliqué. Dans le cadre de quelques minutes, Maïmonide, il connaît très bien le problème de la folie. Il a écrit, bien entendu, un traité médical sur la mélancolie à l'intention du sultan d'Égypte. Je crois que le problème, il s'agit pour lui essentiellement. Dans la folie, il y a aliénation, donc absence de liberté. L'homme n'est plus libre dans la mesure où il est conditionné par ses humeurs. Et Maïmonide est humoriste, c'est-à-dire humoriste au sens médiéval du terme, c'est-à-dire que les substances liquides de l'organisme constituent les facteurs ou les vecteurs essentiels dans la constitution physique de l'homme qui va donc pousser à la personnalité. Donc il y a dans la folie, là, il y a une sorte de détermination humorale qui n'existe pas dans l'homme normal, que lui, il peut contrecarrer ses tendances, il peut maîtriser ses impulsions, il peut limiter donc l'action du sang ou l'action des humeurs qui peuvent pousser vers l'érotisme ou vers l'agression ou vers la passivité. Bon, dans la folie, ces possibilités de maîtrise par la volonté disparaît. Donc Maïmonide, il est bien conscient cette absence de liberté. Or, donc, en quoi consisterait donc le problème, le reste de liberté qu'il y a dans la folie? Eh bien, je crois que cela ne peut se voir que dans l'absence de certains thèmes caractéristiques de la pensée médiévale et juive médiévale dans les écrits de Maïmonide. C'est-à-dire qu'il y a des absences significatives, des choses qui ne se retrouvent pas dans les écrits de Maïmonide. On peut se demander pourquoi. D'abord, c'est une constatation simple aussi, absence de l'idée de possession, de possession démoniaque, qui figure déjà dans les écrits juifs depuis l'époque des Flavius Josèphe. Bah, donc la possession démoniaque ne joue aucun rôle dans la folie selon Maïmonide. La folie est un phénomène naturel, bah, qui est une dégradation de la nature, dans Teva Adam. Donc absence du thème démoniaque dans la folie. Absence de l'idée de dédoublement des personnalités ou de Dibouk, dont il faut bien se rappeler, n'est pas un thème du XVIIIe siècle, mais il est un thème déjà qui figure dans les écrits très anciens. Cette absence est quand même aussi significative. Hein. Il n'y a pas l'influence d'une âme étrangère qui se glisse, qui colle à l'âme d'une personne et qui va perturber son équilibre. Il y a absence d'un certain nombre d'éléments démonologiques qui, bien entendu, vont être par la suite repris à l'époque de la Renaissance, mais qui ne figurent pas. Il y a une naturalisation du phénomène de la folie. Et cela est un élément très significatif parce qu'on vit à ce moment-là dans une époque où la folie, bon, elle est encore pour certains un phénomène naturel et pour d'autres est un phénomène qui relève du surnaturel. on est loin d'une époque où la folie serait un phénomène qui serait jugé sur des critères exclusivement matériels ou physiques. Donc, de ce point de vue, il y a donc encore un certain degré de liberté dans le fait de la négation de la fatalité des influences extérieures sur le comportement. S'il y a dérèglement, s'il y a dérangement, s'il y a perturbation, cela s'explique dans les jeux des forces de la nature, mais ne s'explique pas par des forces occultes ou mystérieuses. Voilà ce que moi je dirais sur la question, je n'avancerai pas plus loin.
Bien. Quel?
Oui. Si l'astrologie ne renseigne que sur le déterminisme, enfin la part de déterminisme qu'il y a en l'homme, alors pourquoi est-ce qu'il y aurait, disons, on n'aurait pas le droit de l'étudier? Puisque je crois qu'on n'a pas le droit d'étudier, de faire de l'astrologie.
Selon Maïmonide ou en général?
Non, en général.
Étudier, on a le droit.
On a le droit d'étudier l'astrologie?
Oui.
Elle occupe une place importante dans
l'étude théorique, bien sûr qu'on a le droit.
Alors qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire?
De la pratiquer. Et d'y croire. Je voudrais profiter peut-être de cette question. Enfin, c'est un chapitre pour lui-même, mais ça, la halakha est claire. Okay. C'est un peu comme pour la philosophie. A-t-on le droit d'étudier la philosophie ou pas? Il y a, dans certaines conditions, on a le droit. Non, c'est une question sérieuse en halakha. Mais pour poser une question précisément qui se relie à l'astrologie, est-ce qu'on pourrait trouver trace dans l'enseignement de Maïmonide d'une position analogue par rapport à l'astrologie que par rapport au déterminisme génétique? C'est-à-dire de dire, ce n'est pas un déterminisme absolu, c'est aussi une sorte de, disons, influence de trunot, de tendance. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose de parallèle? Ou bien pensez-vous que Maïmonide considère la position des astrologues comme étant celle d'un déterminisme absolu et la ni tout, même condition?
Oui. Moi, je crois personnellement que Maïmonide simplifie énormément l'astrologie de son temps et dont une vision qui est presque une caricature de l'astrologie qui était celle du Moyen-Âge. En effet, on a un peu l'impression de lire un philosophe éclairé du XVIIIe siècle parlant sur les superstitions populaires. En vérité, l'astrologie à l'époque de Maïmonide est une astrologie universitaire, est une astrologie des cercles éclairés, est aussi une astrologie des cercles hermétiques.
C'est la même chose éclairée et universitaire.
Oui, non mais... elle est... peut-être, mais enfin, en tout cas, il est clair que la présentation de l'astrologie en parlant de cette superstition populaire, il parle des écervelés qui croient des choses pareilles, il faut quand même retenir le tableau de ceux qui ont écrit des traités sur la question. Ils ne sont pas tous des écervelés, et il en faut de beaucoup. Il y en a, on en trouve de personnalités rabbiniques éminentes tout au long du Moyen-Âge, et même du monde chrétien. D'autre part, je crois personnellement que Maïmonide a un esprit polémique. Et son esprit polémique le pousse Maïmonide visiblement à donner une interprétation de l'astrologie comme une superstition qui conduit à une illusion populaire. Mais en vérité, les astrologues de l'époque de Maïmonide ne sont pas aussi déterministes que ça. Il y en a, on en trouve, qui pensent que les astres influencent mais ne déterminent pas. C'est-à-dire, c'est l'astrologie chrétienne, dans la plupart des cas. Il y en a qui vont appliquer des théories de théologie chrétienne comme la grâce qui pourrait annuler les effets de l'action astrale. Et dans le monde juif, ça c'est pas la grâce, mais c'est l'acceptation de la Torah, donc qui joue un rôle théologique similaire d'émancipation, d'affranchissement par rapport à certaines lois. Donc au fond, je crois personnellement que Maïmonide se situe donc au milieu d'une polémique qui va livrer de façon très très violente, je crois, pour des raisons aussi communautaires, dans la mesure où il croit qu'il faut affranchir la communauté d'une croyance que, au niveau de la foule, conduira nécessairement à la superstition. Et de ce point de vue, donc, il considère que comme homme d'élite, comme comme savant, il est en son devoir d'éclairer l'homme qui se trouve dans la confusion, et pour cela, à un certain niveau, il vaut mieux dire qu'il n'y a strictement aucune détermination et aucune influence astrale. Mais je crois que cela aussi s'explique pour des raisons qui tiennent aussi à la formation scientifique de Maïmonide. Maïmonide, il est médecin. Bon, bien entendu, ceux qui faisaient l'astrologie, c'était aussi médecins, certains d'entre eux. Mais Maïmonide, il est médecin praticien et il s'occupe des maladies mentales. Il est également astronome et il n'arrive pas à faire la jonction entre les deux. Dans ses traités de médecine, où il est question de maladies mentales, bon, il n'arrive pas non plus à fixer l'influence astrale sur ces maladies. Et il est vrai, donc, pour lui, ça, il y a deux branches de savoir qui n'arrivent pas à réunir dans une relation de cause à effet ou d'une relation d'influence réciproque. Ce sont deux branches isolées qu'il va étudier toujours de façon isolée. Et cela, donc, peut-être conduit aussi Maïmonide à cette conclusion. Mais je crois personnellement qu'il reste tout de même une exception à une croyance qui n'est pas seulement celle de la foule juive, mais qui est celle du milieu rabbinique de l'époque, une bonne partie.
Et je signale simplement que tu as dit tout à l'heure, d'ailleurs, dans la charnière entre la deuxième et la troisième partie, qu'il y avait un souci pédagogique chez Maïmonide qui est absolument évident. C'est-à-dire, étant donné le risque d'appliquer, de se donner à ces influences, alors ça a certainement mené Maïmonide à être un penseur peu polémique. Mais est-ce qu'il y aurait trace, enfin je répète ma question, c'est une nuance, est-ce qu'il y aurait trace de la part de Maïmonide d'avoir admis qu'il y ait une réalité quelconque dans cet ordre d'influence? Parce qu'à son époque, les kabbalistes de son temps se sont beaucoup opposés à lui en affirmant la réalité de ces influences. La thèse des kabbalistes en général est que ces influences sont réelles et que précisément l'objet de la pratique des mitzvot est de les briser. Et que si on ne brise pas ces influences naturelles par la pratique des mitzvot, on devient homme du paysage naturel, ce qui est la définition du païen de ce temps culturel. Et il y a de ça des traces dans la Gemara Nehemiah, en particulier dans la Gemara de Shabbat, la controverse « En mazal le Israël » ou « Yesh mazal le Israël »« Keshe osim retono shel makom en mazal »« Keshe en osim retono shel makom yesh mazal » C'est cette marquette-là. C'est-à-dire que lorsque les Juifs pratiquent les mitzvot, alors ils ne sont pas soumis aux influences astrales, mais lorsqu'ils ne les pratiquent pas, ils les sont soumis. En termes contemporains, on appelle ça tout simplement l'assimilation au type humain du paysage donné où l'on vit. Et je vous donnerai un petit exemple et puis je vous rends la parole. Maïmonide permet les actes de sorcellerie de Shabbat parce qu'il n'y croit pas. Comme c'est rien, on ne fait rien, donc c'est permis le Shabbat. Et les kabbalistes n'étaient pas contents qu'ils permettent le Shabbat. Parce que pour eux, c'est violer le Shabbat que faire un acte de sorcellerie. Enfin, je dis sorcellerie, c'est pas un mot très vague. Enfin, des guérisons par des procédés psychologiques.
Ésotériques.
Hein?
Ésotériques.
Psychologiques. Oui.
Une question qui peut-être éloigne un petit peu du sujet, mais comme vous avez dit, Maïmonide avait écrit un traité sur les maladies mentales.
Plus fort.
Est-ce qu'il vous serait possible, très rapidement, de nous dire quelle était la conception de Maïmonide de la maladie mentale.
Bon, très brièvement, certainement pas. Il y a tout un chapitre dans le traité des 8 chapitres sur le problème des maladies qui, justement, traite de la question en parlant donc logiquement de maladies de l'âme, tout comme il y a des maladies du corps, et en considérant les maladies comme des excès ou des défauts. Donc, au fond, d'une part, sa conception de la maladie mentale est une conception donc morale. Il y a maladie mentale dans la mesure où l'homme est entraîné et ou par les vices ou par l'excès, par la passion. Donc, ça, c'est, disons, la notion qu'il va traiter à titre moral. Bien entendu, à titre médical, l'influence des humeurs, etc., sont aussi donc très, très bien prévues par lui. Alors maintenant, voilà donc en quelque sorte la conception. L'équilibre, c'est le juste milieu. L'équilibre mental, la santé mentale, c'est le juste milieu. L'excès ou le défaut dans un sens ou dans l'autre, c'est en cela qui consiste la maladie. Je ne voudrais pas trop m'étendre, si, dans la mesure où cela nous éloignerait un peu trop de, du sujet, parce qu'il y a une question,
oui. Monsieur. Citant Maïmonide, vous avez dit tout à l'heure qu'il y aurait pour Maïmonide table rase en matière de prédisposition, d'inclination au vice et à la vertu. Donc, vous vous êtes trompé.
Il va répondre lui.
Bon, hein. Ouais. Question. J'aimerais savoir comment Maïmonide jugeait le passage de Bereshit où Dieu dit.
Il est mauvais et bon. Bon.
C'est pas l'homme qui est mauvais dans le verset, c'est son Yetzer.
Il y a deux questions, donc, en quelque sorte. Il est clair que pour. Pour Maïmonide, quand on parle de Yetzer Hara, c'est une fantaisie mauvaise ou imagination mauvaise. Comme il dit dans le traité de Guide des Égarés, le Yetzer Hara, c'est essentiellement une fonction de l'imagination, de l'imaginaire. C'est au niveau imaginaire qu'il y a une représentation qui pousse à la transgression, qui pousse à l'excès ou qui pousse au défaut. Et ça se situe donc pas au niveau nécessairement physiologique, au niveau instinctuel. C'est d'abord donc dans l'âme humaine qui a lieu par l'action de l'imagination. Le mot yetzer aussi, voulant dire en hébreu, formation d'une certaine image, d'une certaine vision. Et c'est donc au niveau intellectuel que Maïmonide va parler de yetzer hara, ce qui n'est pas la conception classique seulement sur la question. Alors ça, c'est donc la réponse. Donc l'âme de l'homme, Yetzer, le Babadam, Rameneulav, c'est tout simplement dans l'esprit de Maïmonide. Et donc l'imagination de l'homme est tournée vers le mal, vers le morbide, depuis son âge le plus tendre, mais Neurav, ce qui ne veut pas dire naissance, puisque Neurav, c'est tout de même...
l'éveillement de la conscience.
C'est l'éveillement de la conscience. C'est donc le mot Nahar ne veut pas dire l'enfant... nouveau-né. Donc, ce qu'il voudrait pas, comment il interpréterait les problèmes de la naissance, de la formation de l'enfant depuis la naissance, je crois qu'il y a tout de même, cela laisse possibilité à la table rase, en indiquant que c'est durant l'enfance, durant la prime enfance, que vont avoir lieu les impressions qui vont pousser l'homme à tel ou tel type de comportement.
J'ai l'impression, par rapport à ce problème, que là, c'est un exemple où Maïmonide est véritablement élitiste, aristocrate. De quel homme il parle, de quel enfant parle-t-il?
Oui, de celui qui est visiblement sera éduqué dans les milieux convenables pour la vertu. D'ailleurs, sur ce que Manitou parlait sur la conception aristocratique de Maïmonide dans son éthique, il est clair, il est vraisemblable. Qu'il propose une éthique pour la foule et une éthique pour l'élite. Même en matière sexuelle, la foule doit être contenue dans les limites fixées par la loi mosaïque, pas dans les interdits nécessaires pour empêcher le surpoids des passions. Mais pour l'homme d'élite, pour les savants, il faut proposer un idéal en matière familiale ou conjugale qui serait beaucoup plus celui de l'abstinence à un certain niveau, compatible avec la tradition juive, mais certainement pas celui qui va proposer pour la foule. Il est dit clairement d'ailleurs en parlant sur la question dans le livre de la connaissance, en parlant sur le type de rapport entre hommes et femmes au niveau de la foule et au niveau du savant. Les savants ayant la possibilité d'accès au plaisir intellectuel qui est jugé comme le plaisir supérieur.
Oui, vous avez déjà parlé donc. Oui.
Comment Maïmonide interprète-t-il le verset qui nous dit que Dieu a durci le cœur de Pharaon?
Et bon, il y a justement, cela est traité clairement dans l'impératif, en indiquant l'existence de conditions dans lesquelles il est impossible d'accomplir la libre volonté, parce que l'homme s'est posé lui-même dans une situation où il ne peut pas, il s'est fermé à la possibilité. Et il dit, chaque Égyptien qui opprima les Israélites et les traita avec injustice avait été laissé libre de ne pas les opprimer, s'il l'eût voulu, car il n'avait pas été arrêté à l'avance que telle personne aurait à les maltraiter. Il y a donc au niveau de chaque individu une possibilité d'action. J'endurcirai le cœur des pharaons, et qui a été ensuite puni et fait périr, il y a lieu de s'y arrêter. C'est un principe important. Si Pharaon et son parti n'avaient pas commis d'autres fautes que celle de ne pas renvoyer Israël, tous ces récits seraient à coup sûr difficiles à comprendre, car après les avoir empêchés de renvoyer Israël selon cette parole, j'endurcis son cœur, comment un Dieu exige-t-il de Pharaon le renvoi alors qu'il était contraint de ne pas les renvoyer? Pourquoi ensuite Dieu le punit-il de ne pas les avoir renvoyés, les fait périr? Lui et tout son parti, tout cela serait injuste. Ça contradirait tout ce que nous avons dit précédemment. Au contraire, Pharaon et son parti ont péché librement, sans avoir subi aucune contrainte, aucune nécessité. Ils ont molesté les étrangers qui se trouvaient parmi eux. Ils se sont comportés à leur égard d'une manière absolument inique, comme le dit expressément l'Écriture. Ainsi, le châtiment que pour cette conduite Dieu leur infligea, les empêcha de s'amender, afin de subir précisément le genre de peine qui exigeait la justice. Et cet empêchement, mis à leur amendement, impliquait qu'ils ne les renverraient pas. Donc, au départ, libre arbitre. C'est le libre arbitre de l'homme qui décide de suivre une voie. Bon, l'homme qui décide de se jeter à l'eau ne peut pas par la suite demander d'avoir le même degré de liberté qu'il avait auparavant. Il peut s'éloigner, il peut périr, ou il peut avoir la vie sauve. Il est évident que l'homme
précisément dans les chants des Pratim, il dénie le fait de nommer les mitzvotis personnels sikhliot, intelligibles, que l'on peut comprendre par l'intelligence, et il dit qu'elles sont mouskamot, meforsamot, c'est-à-dire elles sont admises, on y adhère, pas à la limite aussi, c'est une astuce convention, mais par habitude, ou bien le fait que, par consentement, c'est mouskam, mais pour ça, c'est réputé comme évident. Mais il dénie le fait de dire que même pour la partie que Sadiaga on appelle sriot, ils sont traduits par rationnel, et pour cette partie en particulier, et donc à plus forte raison pour l'autre, les chimayot, dénie qu'on les appelle rationnels. Si on explique en disant qu'ils pensent à une raison divine, alors il ne s'agit plus de la raison humaine selon la philosophie grecque, c'est tout à fait autre chose.
Oui, moi je pense qu'il reprend, bien entendu, Maïmonide, le problème, bien entendu, il y en a un certain nombre de mitzvot qui, selon...